France Inter. Le 6-9.
Que lire, que voir, qu'écouter en ce moment, puisque nous avons le temps, profitons-en pour nous immerger dans des univers qui ne sont pas forcément les nôtres. C'est le but de la tribune des critiques. Et bienvenue à vous, Anne Crignon du Nouvel Obs. Bonjour.
Bonjour.
Et pour le Figaro, c'est Joseph Ghosn qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Cette semaine, vous avez eu envie de parler d'un livre qui nous emmène surtout vers la musique. Cette musique. Reconnu le Sacre du printemps du compositeur russe Igor Stravinsky, l'un des hommes les plus innovants, les plus influents aussi du XXe siècle. Et ses conversations avec le chef d'orchestre américain Robert Kraft, qui date de 1959, ont été rééditées chez Alia, avec une traduction inédite, celle d'Olivier Bohr et d'Arnaud Rudy. Et c'est un récit très intime, Joseph.
Oui, c'est un récit très intime, c'est un classique hein, de la conversation avec un artiste et un musicien en particulier. Et Robert Kraft connaissait suffisamment bien Stravinsky pour avoir des discussions assez longues. Il y a 3 ou 4 entretiens rien que dans ce livre. Et ce qui est intéressant, c'est que Kraft et Stravinsky plongent dans la matière qui est d'une part la vie de Stravinsky, mais aussi son œuvre, son travail. Donc on est à la fois dans la façon dont Stravinsky travaille, dont il conçoit sa musique et la façon de la faire, de la composer, mais aussi dans quasiment de l'anecdotique, c'est-à-dire on voit finalement le déroulé de la vie de Stravinsky à travers les questions que lui pose Kraft et la façon dont il y répond. Donc c'est très touchant de ce point de vue-là.
Alors le livre est partagé en 4 chapitres,
oui, hein,
c'est ce que vous étiez en train de dire, qui vont de l'art de composer aux autres musiciens et qui s'achèvent par la musique d'aujourd'hui, c'est-à-dire celle de la fin des années 50. Dès le début, il explique que la composition a pris forme très tôt dans son enfance, bien avant toute étude sérieuse de la musique. Ça, c'est assez fascinant.
C'est très fascinant quand on entend parler, de voir à quel point il est habité par la musique et comment toute sa pensée est vraiment autour de cela. Et ce qui est frappant, c'est la façon dont il dessine sa musique. À un moment, Kraft lui dit « Pouvez-vous dessiner votre musique ?» Donc il dessine toutes les autres musiques d'autres compositeurs de façon extrêmement simple. Et la sienne, elle dessine de façon très compliquée, ce qui fait qu'on comprend comme ça, par ce schéma, toute la complexité de sa pensée.
En fait, ce qui fait la richesse, Anne Crignon, de ce livre aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'iconographie. Il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de dessins.
Alors il y a une iconographie et puis il y a notamment une photo où on le voit enfant. Et la bonne surprise, c'est que quand on est néophyte, ça offre un magnifique voyage. Donc voyage dans le temps, voyage dans l'histoire de la musique, voyage dans la Russie. Soudainement, on est à Saint-Pétersbourg en 1890, devant le théâtre impérial Mariinsky, pressé d'aller écouter un opéra très populaire qui s'appelle Une vie pour le tsar. Il y a une femme, elle tient par la main un petit garçon de 7 ou 8 ans, qui a l'air très sérieux, concentré, et qui s'appelle Igor. Et c'est ce soir-là que dans la vie d'Igor Stravinsky va se jouer d'une certaine façon tout. C'est-à-dire que dans cette salle, en écoutant ses chanteurs, il va savoir que sa vie sera la musique. Et ça, c'est très beau. Énormément d'images comme ça, c'est très visuel.
Oui, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de dessins. Vous disiez que c'est un voyage aussi dans la Russie de la fin du 19e. C'est aussi un voyage dans le Paris de l'entre-deux-guerres où on croise Cocteau, Picasso, Matisse et j'en passe.
On croise vraiment tout le monde. Enfin, c'est quasiment un abécédaire de l'art moderne de ces années-là. C'est aussi une sorte de précis de la façon de penser la musique et l'art des années 50, en fait. Et ça, c'est très intéressant, et c'est d'autant plus intéressant que c'est une époque qu'on a peut-être un peu négligée en musique, puisque la pop est née vers la fin de ces années-là, et qu'on s'intéresse plutôt à la pop. Mais de voir ce livre édité, en fait, aujourd'hui en France, ça veut aussi dire qu'on s'intéresse davantage à cette période-là et aux innovations qui ont été faites dans la musique classique. Et Stravinsky est évidemment très, 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 très porteur de ça. Donc, en ce sens-là, je trouve qu'il y a un très grand intérêt à regarder ce livre quand on s'intéresse à la musique et même si on ne connaît pas les œuvres des uns ou des autres.
Qu'est-ce que vous avez aimé particulièrement dans ce livre, Anne ?
Alors, ce que j'ai aimé particulièrement, c'est que d'une certaine façon, l'entretien est fait sans précaution, c'est-à-dire ces deux personnes se connaissent très bien. Robert Kraft ne prend pas de précaution quand il pose une question et Igor Stravinsky n'en prend aucune lorsqu'il répond. Et ça permet d'avoir une sorte de vue sur l'esprit d'Igor Stravinsky et surtout d'une certaine forme de radicalité dont il fait preuve. Par exemple, sur Dostoïevski, qui est un ami de son père, il dit qu'il s'agit du plus grand russe ayant jamais existé. Sur le Manfred de Tchaïkovski, il s'agit de la partition la plus insipide du monde. Oui. Et voilà, il est comme ça, et c'est très intéressant cette façon de parler sans entrave.
Voilà, on a l'impression de mieux le connaître et d'être dans son intimité. Conversation avec Igor Stravinsky de Robert Kraft, c'est réédité chez Alia. On passe à vos coups de cœur. Anne Crignon, on change radicalement de style avec Caroline, la jeune héroïne de BD à couette blonde, née dans les années 50.
Alors là, bijou. Il nous vient des presses universitaires François Rabelais de Tours. Et un chercheur qui s'appelle Christophe Meunier a eu l'idée d'aller étudier les 44 albums de Caroline pour en montrer qu'elle est une héroïne de quoi ? En réalité, une héroïne des 30 glorieuses. Mmh. Et que chaque album accompagne des changements en France. Alors, en 53, c'est intéressant parce que c'est une fête chez Caroline qui vient marquer un petit peu la fin des restrictions. Et puis, au fur et à mesure que s'invente... la technologie, on voit Caroline en avion, Caroline en bateau. Mmh. Et c'est très intéressant parce que le chercheur a eu l'idée de la comparer avec la petite Martine de Marlière.
Oui, forcément.
Voilà.
Quand vous dites Caroline en avion, on pense à Martine en avion.
Hein. Qui arrive, elle, en librairie en 1954. Et elles ne sont pas du tout du même milieu social. Elle donc fait toute une étude entre elle et elle. Et c'est très, très, très bien fait. L'iconographie est splendide. Et il s'agit d'un nouveau voyage, très beau lui aussi. Donc je recommande très chaleureusement Caroline, héroïne des 30 Glorieuses.
Merci. Et on passe de la BD au graffiti, Joseph Ghosn, avec le catalogue d'une exposition baptisée Au nom du nom.
Au nom du nom, oui, c'est un peu le graffiti dans tous ses états. Hein. C'est le graffiti prend l'avion, le graffiti, etc. c'est une exposition qui se déroule en ce moment aux Rencontres d'Arles. Une exposition consacrée au graffiti. Donc il y a tous les grands artistes. Mais surtout, j'ai adoré l'exposition, mais j'ai aimé davantage encore le catalogue, le livre. Parce que c'est un livre qui retrace le parcours en images. Il y a de très grands artistes qui ont photographié le graffiti, comme Bruce Davidson, de très grands photographes américains. Il y a aussi Sophie Kahl, il y a des œuvres comme ça. Donc c'est une version ou une vision assez extensive du graffiti. On comprend ce qui s'est passé à New York ou à Paris au début des années 80, dans les années 70, au début des années 80. Et on voit aussi notamment que le graffiti, qui a été comme ça extrêmement célébré, n'est pas uniquement un art de la couleur ou des choses mises comme ça avec de l'énergie. C'est aussi un art de la déchéance, de la décadence des murs, des formes, etc. Donc, c'est un livre extrêmement, extrêmement bien fait, très, très beau. Et la couverture est signée d'un artiste hyper contemporain qui est J.R.
Ah bah oui, rien moins que J.R. Encore des choix très éclectiques ce week-end. Merci à vous deux. Bonne lecture à tous.